On va lire d'abord un premier passage dans 1 Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 16. Verset 21. Et David vint vers Saül, et il se tint devant lui. Et Saül l'aima beaucoup. Fin du verset 23. Et Saül était soulagé et se trouvait bien, et le mauvais esprit se retirait de dessus lui. Un deuxième passage. Dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1er, « Et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » Verset 3, « Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David ainsi que ses vêtements jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. » Toujours le chapitre 18, verset 16. Et tout Israël et Juda aimaient David, car il sortait et entrait devant eux. Verset 20. Et Michal, fille de Saül, aima David. Et on le rapporta à Saül, et la chose fut bonne à ses yeux. Milieu du verset 22. Voici, le roi prend plaisir en toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Et maintenant, sois gendre du roi. Toujours chapitre 18. Verset 28, et Saül vit et connut que l'Éternel était avec David, et Michal, fille de Saül, l'aimait. Ce matin, nous avons été occupés de l'amour du Seigneur. Et nous avons exprimé que rien n'a arrêté son ineffable amour à notre égard. Et nous pouvons peut-être nous poser cette question: quel est le caractère de notre amour pour le Seigneur? Et dans ce que nous avons lu, nous voyons plusieurs personnages, et l'amour nous est présenté sous différents caractères. Le premier amour dont nous avons lu le passage, c'était l'amour de Saül. L'amour de Saül, était un amour, nous pourrions l'appeler égoïste, puisque il était pour le soulagement de son cœur, pour le soulagement des maux qu'il connaissait. le caractère du deuxième amour dont nous avons lu quelque chose, c'est l'amour de Jonathan, un amour pur, sans doute le plus pur par rapport à ce que nous avons lu, un amour qui s'abaisse, qui se dépouille, qui renonce. Le troisième amour que nous avons lu au verset 16 du chapitre 18 était l'amour d'Israël et de Juda à l'égard de David. Et si nous lisons attentivement dans ces chapitres, nous voyons que c'était un amour pour les délivrances que le peuple connaissait. Un autre amour que nous avons lu au verset 22 de ce chapitre 18, c'était l'amour des serviteurs. Et tous ses serviteurs t'aiment. Et si nous lisons attentivement ces versets, il s'agissait d'un amour par admiration. Les serviteurs de Saül étaient en admiration devant les victoires ou la victoire de David. Le dernier amour dont nous avons lu quelque chose, c'est l'amour de Michal, une des filles de Saül, que David va épouser. On a pu appeler cet amour un amour selon la nature. Et certainement que Michal aimait David, mais si nous lisons plus loin dans le deuxième de Samuel, nous voyons qu'à un moment donné, Michal a méprisé David. Quel est le caractère de notre amour pour le Seigneur? Est-ce que c'est un amour par admiration, un amour à cause de la délivrance que nous connaissons? Est-ce un amour parce qu'il nous soulage de nos maux? Il nous délivre peut-être dans les épreuves? Quel est ce caractère? Chacun peut parler pour lui-même, parce que l'amour, c'est quelque chose de personnel. C'est ce que nous avons dans le cœur. Dans ce que nous avons lu, donc, dans 1 Samuel 18, à propos de Jonathan, dans le chapitre 17, à la fin, nous voyons David qui remonte la vallée d'Ela avec la tête de Goliath dans sa main. Et en cela, nous savons que David est un type, une image exceptionnelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans son triomphe sur la puissance du péché, triomphe sur la puissance de ce monde, triomphe sur Satan et triomphe sur la mort. Et nous le voyons donc qui s'avance, David, dans la puissance de sa victoire. Et on peut comparer le Seigneur donc qui s'est avancé aussi dans le triomphe qu'il a connu, et il a été ressuscité d'entre les morts. Et au verset 54 du chapitre 17, nous voyons que David va vers Jérusalem, c'est-à-dire le centre de l'établissement de son royaume. Et c'est Jérusalem sera aussi le centre du royaume de Jésus-Christ pendant le millénium. Donc nous voyons une concordance extraordinaire entre la victoire de David sur Goliath et la victoire de Jésus-Christ à la croix, avec toutes ses conséquences. Et alors, en lisant ces passages, nous voyons que Jonathan est absolument captivé par David. Et de son propre chef, nous voyons que il se dépouille de sa robe, de ses vêtements, c'est-à-dire la robe et les vêtements, c'était la robe et les vêtements du prince héritier après Saül, et il désire se dépouiller et s'effacer. Il se dépouille de son épée qui était le symbole de toutes ses victoires. Il se dépouille de son arc. L'arc, dans la parole de Dieu, nous parle de l'influence que nous pouvons avoir plus loin. Et même l'influence qu'il pouvait avoir auprès de Saül, auprès du peuple d'Israël, eh bien, il laisse cela. Il se dépouille même de cette influence pour mettre en avant David. Et il se dépouille aussi de sa ceinture. Et nous savons que la ceinture est le symbole aussi du service, et aussi de la force. Et pouvons-nous nous poser donc cette question? Nous nous entretenons volontiers de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, un amour fort comme la mort. Mais qu'en est-il de notre amour pour lui? Nous souvenons d'Éphèse, hein, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Qu'en est-il aujourd'hui, chacun, de notre premier amour? Nous allons peut-être lire un peu plus loin concernant Jonathan, que Dieu va le tester. C'est-à-dire qu'au fond, le Seigneur désire et veut nous tester. C'est-à-dire que nous fassions le point, jour après jour, sur son amour que nous avons après lui. Est-ce que, quand il nous met à l'épreuve, quand il met à l'épreuve notre amour, qu'allons-nous manifester? Qu'allons-nous lui montrer? Pouvons nous souvenir de Jean 14, hein, si quelqu'un m'aime, eh bien il gardera mes paroles. Ça c'est un test. Hein, c'est chacun de nous ici. Le Seigneur nous parle jour après jour. Et voilà, si vous m'aimez, eh bien, vous allez garder mes paroles. Nous n'allons pas les tordre. Hein, nous n'allons pas prendre un chemin différent. Nous allons accepter ce que le Seigneur nous dit dans sa parole pour le suivre. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est en cela que nous manifesterons notre amour pour lui. Dans ce chapitre 18 de 1 Samuel, il y a une similitude extraordinaire avec Philippiens 3. On peut lire ce dépouillement. Philippiens 3, verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. C'est ça le dépouillement. Et juste avant, l'apôtre Paul, il nous parle de ses avantages qu'il avait quant à la chair, c'est-à-dire il était de la race d'Israël, il était hébreu des hébreux, il était pharisien, il allait jusqu'à persécuter l'assemblée. Quant à la justice qui est par la loi étant sans reproche. Mais nous voyons que à partir du moment où il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, acte 9, eh bien, quel travail s'est opéré dans le cœur et la conscience de l'apôtre Paul. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. On a dit souvent que le chemin des chrétiens, c'était au moment de la nouvelle naissance, on est prêt à tout abandonner pour Christ dans la joie et la force du premier amour, mais que progressivement dans la vie, tout ce que nous avons abandonné, eh bien, nous cherchons à le récupérer d'une façon ou d'une autre. Le vrai amour, c'est un amour qui est permanent, qui ne baisse pas. Et si nous avançons dans la connaissance du Seigneur, de Jésus-Christ, si nous avançons dans la connaissance de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha, l'amour qu'il a manifesté, les souffrances qu'il a connues, eh bien, si nous avançons dans cette connaissance, eh bien, notre amour devrait être beaucoup plus grand, les années passant. Qu'en est-il aujourd'hui de notre amour ? Est-ce que c'est un amour qui renonce, un amour qui se dépouille, un amour qui laisse beaucoup de choses que nous ne devons pas garder, mais pour l'amour de notre Seigneur. Alors si nous tournons la page, dans 1 Samuel 20, nous pourrons lire au verset 42 et 43. Et Jonathan dit à David, va en paix, selon que nous avons juré nous deux au nom de l'Éternel, disant, l'Éternel sera entre moi et toi, et entre ma semence et ta semence à toujours. Et David se leva et s'en alla, et Jonathan entra dans la ville. Dans le passage que nous venons de lire, ces deux versets, nous voyons que la scène a complètement changé. Nous voyons un David qui est pourchassé, qui est rejeté par Saül, qui cherche à le tuer. Et David n'est plus honoré comme au jour de sa victoire contre Goliath. Donc il est rejeté, il est poursuivi, et Saül cherche à le tuer. Et Jonathan, manifestement, eh bien, il savait tout cela, il avait pu rejoindre David parce qu'il savait où il était. Et il dit simplement à David, « Va en paix ». Mais au lieu de le suivre dans son chemin de rejet, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il entre dans la ville, il le quitte. Et c'est ce que nous devons voir aujourd'hui en ce qui nous concerne. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a crucifié le Seigneur. Et c'est dans ce monde que nous vivons. Et nous voyons que l'amour de Jonathan est mis à l'épreuve. Va-t-il suivre David ou pas? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, dans un chemin de rejet? Alors la signification de la ville, c'est un lieu d'activité, c'est un lieu où on rencontre sans doute beaucoup de personnes, mais le centre d'intérêt de la ville, c'est pas Jésus-Christ. Le centre d'intérêt de la ville, ce sont nos activités. Et nous voyons que Jonathan quitte David et choisit la ville. La ville où il trouvait sans doute beaucoup de joie, des joies terrestres, et ces joies, il ne voulait pas les laisser. Si nous tournons la page encore, nous voyons une deuxième épreuve que va connaître David, chapitre 23, versets 14 à 18. Et David habita au désert dans des lieux forts, et il habita dans la montagne au désert de Ziph. Et Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra pas en sa main. Et David vit que Saül était sorti pour chercher sa vie. Et David se tenait au désert de Ziph dans un bois. Et Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans le bois et fortifia sa main en Dieu. Et il lui dit, « Ne crains pas, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera pas, et tu règneras sur Israël, et moi je serai le second après toi. » Et Saül, mon père, le sait aussi, et ils firent les deux alliance devant l'Éternel, et David demeura dans le bois, et Jonathan s'en alla à sa maison. Jonathan savait très bien où était David, où il se cachait, dans le bois, dans ce désert. Et pouvons faire peut-être une similitude, nous avons aussi conscience que notre chef qui a été rejeté est maintenant dans le ciel, et nous pouvons connaître la traversée de cette terre comme un désert pour nos âmes. Et nous voyons que Saül savait où était David, et il renouvelle ses, ces manifestations d'amour vis-à-vis de David, et il rappelle les liens précieux qu'il existait entre lui et David. Et il se permet même de dire « Tu règneras sur Israël et moi je serai le second après toi ». Ça nous fait penser à la mère de Jacques et Jean qui désirait, dans les évangiles, qui désirait que ses fils soient à la droite et à la gauche de Jésus-Christ. Et quelle a été la réponse du Seigneur? Chacun peut regarder, c'est dans Matthieu 20. On peut se demander même pourquoi Jonathan posait de telles questions à David. De quel droit désirait-il être auprès de David et être le second après lui, alors que il allait l'abandonner, il allait le laisser rejoindre son père? Et l'épisode précédent, on a vu que il avait quitté aussi, il avait préféré sa maison, la ville, et ici sa maison. Nous avons une course à courir, et je crois dans Corinthiens chapitre 9, il y a un prix à gagner. Et il est dit qu'il y a un seul qui gagne le prix. Mais pour gagner le prix de 1 Corinthiens 9, eh bien, il faut suivre par amour le Seigneur. Il ne faut pas le quitter. Et le Seigneur, il nous met à l'épreuve, les uns et les autres, jour après jour, peut-être dans nos activités journalières. Nous avons des choix à faire. On peut être ambitieux dans ce monde, mais si on est ambitieux dans ce monde, ce n'est pas forcément suivre ce chemin de rejet du Seigneur. Et nous pouvons nous poser la question, quels sont les centres d'intérêt qui sont les nôtres et qui nous empêchent de manifester de cet amour pour Christ? Est-ce la ville avec ses activités humaines? Est-ce que c'est la maison? La maison, ça parle de soi, de nos intérêts, de mes intérêts. Nous avons besoin sans doute de nous laisser sonder pour savoir qu'en est-il de l'amour de Christ dans nos cœurs. Allons-nous laisser ces choses qui nécessitent, dont il est nécessaire que nous abandonnions? Encore un dernier verset, c'est à la fin, le devenir de Jonathan. 1 Samuel 31, et les Philistins combattirent contre Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins pressèrent fortement Saül et ses fils, et les Philistins frappèrent Jonathan et Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Jonathan aspirait à cette deuxième place dans le royaume de David, et nous le voyons qui est tombé, qui est mort par les Philistins sur la montagne de Gilboa. Nous pouvons perdre notre vie. Nous pouvons perdre notre vie si nous n'avons pas à cœur de raviver notre amour pour Christ. Nous n'allons pas perdre notre vie, sans doute, comme sur la montagne de Gilboa, les Philistins qui ont frappé Saül et ses fils, mais nous pouvons perdre notre vie. Nos âmes sont liées avec notre Sauveur et notre Seigneur. Sommes-nous prêts à le suivre dans ce chemin de rejet? Quelle affection lui portons-nous aujourd'hui?
L'amour, c'est une chose merveilleuse, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus pour nous, que chacun ici peut dire que Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour nous. Et Fils de Dieu nous a aimés ensemble et s'est livré lui-même pour nous en offrant des sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Et puis Éphésiens 5, verset 25. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Il la sanctifie, il la purifie par lavage d'eau, par la parole. Il la présentera bientôt à lui-même, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, glorieuse et irréprochable. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Quelle grâce de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de notre Sauveur. Mais Paul, l'apôtre, écrivait aussi l'amour. Nous connaissons bien 1 Corinthiens 13, hein, qui nous parle de l'amour, entre nous. Et on pourrait simplement lire 1 Corinthiens 13, juste les versets 4, jusqu'au début du verset 8.
Corinthiens 13, verset 4. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de la justice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
Le début du verset 8.
L'amour ne périt jamais.
L'amour ne périt jamais, voilà. L'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour entre nous. C'est pourquoi il écrit, 1 Corinthiens 14, le premier verset, il écrit « Poursuivez l'amour, poursuivez l'amour ». Quel amour entre nous ? Ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour de Dieu, qui a été versé dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, qui habite en nous, l'amour de Dieu. C'est une grâce de connaître l'amour de Dieu, puissions-nous réaliser ce 1 Corinthiens 13 et en poursuivant ainsi l'amour entre nous.